le fait d'être entreprise aux missions, aujourd'hui, on se cache plus derrière son petit doigt. Nous, ce qui nous importe, c'est l'éthique des affaires, c'est l'impact. Donc, on discute de ces sujets-là. Et on voit tout de suite si nos clients sont illuminés par ça ou pas. Si ça leur parle pas et qu'on est juste là pour cocher des cases, il y a peu de chances pour qu'on deal ensemble. Par contre, s'il y a moyen de les amener, de les accompagner dans leurs problématiques, parce que ça les stresse aussi beaucoup, et qu'on peut avoir cette action de transformation à leur côté, ben c'est chouette. L'idée, c'est pas de travailler pour eux, c'est de travailler avec eux. Et en tant qu'entreprise à mission, je trouve ça plus facile.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Je vais lancer un nouveau format sur le podcast, questions de mission. Je vous propose de répondre à vos questions, que vous soyez en réflexion sur votre mission ou sur votre raison d'être, que vous vous demandiez si vos objectifs statutaires sont les bons, ou comment les décliner pour les rendre opérationnels, que vous vous interrogiez sur la composition de votre comité de mission, voire la pertinence d'avoir un comité de mission si la question se pose, ou comment l'animer, ou même que vous cherchiez des arguments pour convaincre votre dirigeant de se lancer dans la démarche, ou bien d'autres questions sur le rapport de mission, sur l'audit, sur n'importe quel aspect lié à votre société à mission. L'idée est de recevoir une fois par mois une personne qui s'interroge et de trouver des réponses à ces questions. Bien sûr, on conservera l'anonymat de l'entreprise. Ce qui sera intéressant, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas les seuls à vous poser les questions que vous vous posez. Donc pourquoi ne pas aider les autres dans le même temps? Je ne prétends absolument pas avoir réponse à tout. J'ai peut-être quelques réponses, quelques avis en tout cas. Mais surtout, nos discussions seront forcément source d'éclairage pour d'autres. Alors si ça vous intéresse, et j'espère que c'est le cas, contactez-moi sur LinkedIn ou par email. Je vous donne mon adresse vivien@lamachineasens.fr. Tous les détails seront dans les notes de l'épisode. Reprenons justement avec l'épisode du jour. J'ai le plaisir de recevoir Bertrand Charles et Fabien Hospital, co-dirigeants de Consort Intelligence, un cabinet spécialisé dans l'investigation économique. Alors les plus fidèles auditeurs, surtout les plus anciens, se rappelleront peut-être qu'ils m'avaient fait le plaisir d'être mes tout premiers invités. 2 ans plus tard, je suis venu voir comment se déroulait le déploiement de leur mission. J'aime bien retourner voir quelques-uns de mes précédents invités, parce que passer société à mission, ce n'est pas une photographie qu'on prend à un instant T. C'est un enregistrement plan large sur lequel on n'appuie jamais sur le bouton stop. En plus, Bertrand et Fabien sont toujours bien seuls dans l'univers de l'intelligence économique. Pourtant, ils nous montrent comment c'est possible d'y arriver. Cela requiert des convictions chevillées au corps, des engagements forts, que la mission renforce encore davantage, et un embarquement des collaborateurs que les co-dirigeants ont rendu co-responsables de la réussite de la mission. Il y a beaucoup de lucidité, vous verrez, dans les propos et sur la posture qu'ils peuvent par exemple adopter vis-à-vis des clients. Alors oui, c'est parfois difficile, mais leurs interlocuteurs changent, la nature des échanges également. Vis-à-vis du positionnement du cabinet, bien sûr que certains s'interrogent encore dans le secteur sur ce choix, mais eux l'assument entièrement et surtout ils se sentent alignés. Et de fait, attire des collaborateurs qui sont dans la même dynamique. On a fini l'échange sur 2 chansons, vous verrez. Je suis sûr que, à mon avis, ce sera des découvertes pour vous. Donc, ne les manquez surtout pas. Également, les explications, et vous verrez, c'est assez drôle, elles sont très convergentes entre Fabien et Bertrand, alors qu'ils ne s'étaient pas concertés, et les choix de musique sont très différents. Allez, je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à l'écoute. Bonjour Fabien, bonjour Bertrand.
Bonjour Vivien.
Bonjour Vivien.
Bien, ravi de vous accueillir de nouveau sur le podcast de La Machine à Sens. Et merci aussi d'accepter que je vienne pour prendre un peu le pouls. 2 ans, presque 2 ans, hein, jour pour jour, après notre premier échange. C'est important de se dire que le passage en société à mission, finalement, c'est pas une finalité, c'est une étape. Et c'est important de voir un peu ce qui se passe derrière ce changement de statut. Parce que finalement, c'est un cadre qui est très souple. Et donc, on apprend en faisant. Et on apprend aussi en s'inspirant des autres. Donc j'espère que votre expérience pourra aussi nourrir des réflexions chez d'autres entreprises à mission ou peut-être nourrir des réflexions de futures entreprises à mission. Alors je vais pas refaire la présentation de vous deux. Hein. Je renvoie les auditeurs à l'épisode. D'ailleurs, c'était le tout premier épisode du podcast. Je dirais juste que vous êtes les co-dirigeants de Consort Intelligence, une entreprise spécialisée dans l'investigation économique. On reviendra sur ces sujets-là un peu après. Peut-être pour commencer, C'est de se dire tout simplement, bah, voilà, vous avez un peu plus de recul sur le fait d'être passé société à mission. Comment s'est passée la déclinaison opérationnelle de votre mission? Parce que quand on s'était vu, s'il y avait encore, voilà, vous étiez en phase de tâtonnement quand même. Maintenant, vous avez beaucoup plus de recul. Donc déjà, comment s'est passée cette déclinaison dans un secteur, on pourra revenir dessus un peu plus tard, dans un secteur qui est pas forcément évident, bouleversé avec pas mal d'événements qui, à mon avis, ont eu des impacts aussi sur votre activité géopolitique, etc. Donc, commençons par ça.
Merci Vivien de nous réinviter à nouveau 2 ans plus tard. C'est aussi une façon pour nous de s'arrêter, de lever un petit peu le nez. Tout le monde ne pose pas des questions sur la société à mission, sa concrétisation opérationnelle. Donc merci de revenir dans nos bureaux pour ça. Juste pour répondre de mon point de vue sur cette première question, en fait, on a tâtonné pendant quelques mois, mais l'engagement, en fait, la recherche de l'engagement et l'adéquation entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est si naturel que finalement c'est pas très douloureux. C'est au contraire plutôt une sorte de réalignement qui nous permet de retrouver une énergie dans nos opérations, dans la gestion de notre entreprise, avec plus de, j'ai pas envie de dire plus de confort, parce que diriger une entreprise, c'est jamais confortable, au contraire, c'est tout l'inverse. Mais on a fini de se poser les mauvaises questions.
Ouais, je vois un chemin parcouru à plusieurs échelles. Déjà, premièrement, je pense qu'au niveau de l'équipe, on est les mêmes. On a vraiment maintenant une équipe stable et engagée. Les gens qui sont avec nous, ils savent pourquoi ils sont là. Ils restent dans la durée. C'est un vrai facteur de consolidation de l'attachement à l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper important. Ceux qui devaient partir sont partis. Et ceux qui devaient venir sont arrivés. Et là, maintenant qu'ils sont là, ben, on sait qu'on va travailler avec eux dans la durée. Donc ça, c'est très chouette. Parce qu'on est tous mus par le même élan. On a eu, je pense aussi, pendant ces 2 années, la concrétisation de notre première démarche de quelque part de R&D, parce qu'on a dû réinventer nos solutions, on a dû atterrir sur de nouvelles solutions plus en phase avec notre premier métier d'origine qui est l'investigation économique et puis le sens qu'on veut y mettre. Donc on a maintenant vraiment une offre de solutions structurée autour de cet engagement, et cet engagement, il est encapsulé dans les solutions, il n'y a plus vraiment besoin de le dire, il en fait partie. Et ensuite, au niveau du portefeuille de clients, quelque part, ceux qui sont avec nous aujourd'hui sont ceux qui ont fait le choix de rester avec notre transformation d'entreprise à mission. Et puis, ça nous a ouvert à tout un nouveau portefeuille de clients, c'est-à-dire de nouveaux interlocuteurs dans les structures, de nouveaux types de clients qui sont arrivés aussi. Donc, autant au niveau de la structure de l'entreprise, ça a permis de consolider les bases et d'avoir une équipe stable. Au niveau des clients, il y a quelque part, je ne vais pas dire un tri, mais un renouveau du portefeuille client qui est en permanence en train de se renouveler. Et qui trouve il faut le dire aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, un écho très favorable avec les nouvelles réglementations qui nous servent cruellement et qui font écho cruellement à l'engagement qu'on a pris, des réglementations engagées sur les impacts environnementaux et humains. Donc on avait vraiment besoin que tout ça atterrisse, et tout ça arrive au bon moment. Donc on est finalement à ce moment clé de ces réglementations qui arrivent et qui viennent dans le bon sens pour nous, quoi.
Alors c'est très bien, parce qu'en fait tous les deux vous avez abordé la quasi-totalité des sujets qu'on va traiter dans les prochaines minutes. Avant qu'on les détaille tous, je vais peut-être commencer par le premier, qui est sur l'implication interne, l'équipe, etc. Parce que vous êtes une petite équipe. Mais en même temps, passer société à mission dans votre secteur d'activité, tout le monde se dit pas, bah oui, c'est naturel. Et donc tu le disais, Bertrand, bah en gros là, on est une équipe stabilisée. Ceux qui devaient partir sont partis, et ceux qui nous ont rejoints sont vraiment engagés. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement, voilà, ou est-ce qu'il y a eu quand même quelques petites difficultés à faire comprendre à certaines personnes que bah, passer entreprise à mission, c'était aussi des engagements sur lesquels vous n'alliez pas. Sur lesquels vous n'alliez pas bouger?
Ce chemin, en fait, vis-à-vis de l'équipe, il s'est fait depuis le Covid. Hein. C'est un travail qu'on avait fait pendant le Covid, hein, de repenser l'entreprise avec cette matrice de réflexion sur posant la question dans quel monde vous avez envie de vivre. Et donc, on a imprimé ça assez fortement. Et en fait, on s'est rendu compte que l'équipe qui était déjà présente à l'époque était quand même rassemblée derrière des valeurs humanistes globales. Et que les gens qui, au gré de la transformation et des difficultés que ça a pu représenter, effectivement, certains sont partis parce que certains croient pas forcément, n'ont pas forcément la foi dans la réalité de la mission dans notre secteur d'activité, l'investigation économique entreprise à mission, on reste la seule entreprise du secteur de l'intelligence économique à avoir adopté ce statut. C'est vrai que nos confrères peuvent nous prendre un peu pour des fous quand même, en se disant « mais comment est-ce qu'on peut faire ça ?» Pour nous, c'est assez naturel. Et l'équipe qui est là aujourd'hui, ça correspond à ses propres attentes. Ce sont des générations qui ont conscience des désordres, qui voient le monde face à ces turpitudes, à ces atteintes aux droits humains, l'atteinte à l'environnement, à la probité dans le monde des affaires. En fait, ça les touche. Et ça les motive en fait de contribuer à notre petit niveau à travailler sur ces sujets-là pour accompagner la transformation de nos clients, parce que c'est ce qu'on fait en fait. La volonté qu'on a, d'autant plus depuis qu'on est entreprise à mission, c'est de contribuer à la transformation, parce que c'est bien de critiquer, c'est bien d'alerter. Donc je parle de la société civile, des ONG qui font tout ce travail d'alerte sur les sujets qui touchent à l'environnement, aux droits humains ou à la corruption par exemple. Aujourd'hui, nos consultants sont impliqués dans une transformation opérationnelle à côté des clients. Donc, ça a un sens, ça a une concrétisation. On n'est pas en train de faire des rapports de 100 pages qui servent à rien. C'est opération par opération, indiquer à nos clients quels sont les risques de travailler avec telle structure, pourquoi est-ce que c'est dangereux de travailler avec une société dont on ne connaît pas les bénéficiaires effectifs, pourquoi est-ce que c'est dangereux de travailler sur ce projet parce que ça va occasionner de la déforestation, des expropriations. Donc, au quotidien, c'est motivant pour eux. Et ce qui est aussi très motivant, c'est l'essence même de la matière qui est sans cesse renouvellement, c'est-à-dire qu'on touche à des sujets hyper différents, du Pérou à l'Albanie, en passant par des pays africains sur des sujets très variés, des secteurs variés. Donc, cet ensemble de choses, le sens, la concrétisation de l'action et la stimulation intellectuelle d'être en sans cesse découverte de nouveaux sujets, de nouveaux secteurs et de nouveaux acteurs, ça les maintient engagés. Et c'est vrai que ça nous motive nous aussi, hein, c'est sûr.
On sent aussi qu'ils ont besoin d'avoir, au travers de Fabien et moi, les deux co-dirigeants, des gens en qui peuvent avoir confiance pour garder le cap. Ils ont besoin qu'on soit là pour leur montrer qu'on garde le cap, qu'on affronte parfois des difficultés avec des clients qui nous tournent le dos, parfois des succès, et là on est content, mais ils sont engagés, mais il leur faut une figure de proue qui va, étape par étape, pas à pas, porter cette mission, et là, c'est vrai que ça repose sur nos épaules, même s'ils sont capables de dire, et c'est très chouette, cette mission, on va pas la prendre, si. Est-ce qu'on la prend? Économiquement, on en a besoin. On arbitre, on crée un comité de décision, hein, qui mobilise pour arbitrer sur certaines missions. Ça, c'est eux qui ont apporté ça. C'est eux qui ont dit, nous, on voudrait pouvoir avoir la décision sur des missions. On arbitre, on peut pas toujours dire non. Parfois, on est quand même à prendre des missions parce qu'on sait qu'on va pouvoir les transformer, mais ils ont ce rôle aussi, même s'ils ont besoin d'avoir des éclaireurs sur le fait de porter la mission, ils ont ce rôle de nous aider aussi à garder le cap. Donc c'est très dynamique et très interactif tout ça, et donc on fait corps autour de cette mission qu'on a tous envie de maintenir le plus longtemps possible.
Si on regarde maintenant un petit peu alors on rentrera sur les aspects clients hein, juste après, et l'impact que ça a pu avoir, etc. Vous avez décidé de créer un comité de mission qui n'est pas obligatoire hein, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a des personnes internes, des personnes externes. Je sais qu'il y avait déjà des personnes qui étaient proches de vous avant. Comment est-ce que ça a nourri aussi vos réflexions? Est-ce que ça les a nourris? Peut-être pas du tout. Mais comment ça a nourri vos réflexions justement sur votre positionnement, éventuellement des sacrifices à faire ou des chemins à prendre par rapport à votre mission?
Moi, je pense que ça dépasse l'idée même du comité de mission. C'est un peu natif chez nous que d'être entouré par des gens. On a toujours eu un petit board chez Consort, même quand on était trois. On a toujours eu des personnalités autour de nous qui nous ont accompagnés parce qu'on a conscience qu'on ne sait pas tout. On ne saura d'ailleurs jamais tout et qu'il y a des compétences dont on ne dispose pas. Une vision que nous n'avons pas, et ces gens qui nous entourent nous amènent à progresser tout le temps. Donc, on challenge en fait ce qu'on a envie de faire. Le comité de mission, c'était aussi plutôt une concrétisation dans l'organisation interne de la mission placée statutairement au-dessus, donc avec un processus de reporting qui va avec. C'est essayer de structurer en fait cette mission-là. Mais voilà, les gens qui sont dans le comité de mission aujourd'hui sont hyper engagés. Je pense à Thomas Barmelet ou à Cyril Antignac. Ça nous montre aussi et ça nous fait croire en la mission parce que c'est des gens qui ont des profils de haut niveau et qui nous encouragent, qui se mobilisent, qui sont toujours présents. Et au-delà de ça, dans l'environnement dans lequel on évolue chez Concert Intelligence, on n'est pas, ça n'a pas changé depuis, on n'est pas une boîte fermée, on est une boîte très ouverte sur le monde et on a plein de gens qui nous entourent, que ça parle d'un anthropologue, d'un conseiller en com, d'un spécialiste du marketing. Et c'est des gens qui sont à notre écoute et à nos côtés tout le temps. Et ces gens qui nous entourent, et ça, c'est ces parties prenantes-là, adhèrent énormément à notre engagement d'entreprise à mission. Donc ça les motive encore plus à nous aider, à nous accompagner, à se mobiliser quand on en a besoin.
Alors, du coup, ce que tu dis, c'est vrai, Fabien, c'est que il n'y a pas vraiment de distinction entre un comité de mission, un conseil consultatif, ce sont les mêmes membres. Finalement, on a réduit l'équation en mettant dans le comité de mission ceux qui nous avaient accompagnés dans un comité consultatif, puis sur notre chemin d'entreprise à mission, sur cette transformation. Il y a une cohérence et une simplification des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer la mission de la stratégie. Ça fait corps, donc il n'y a pas de raison d'avoir une multiplicité d'organes, surtout dans une petite boîte. Donc au final, ça dit pas son nom, mais notre comité consultatif et notre comité de mission, c'est la même chose. Et après, on va chercher, comme tu le dis Fabien, des conseils externes, spot, sur mesure, au cas par cas. Et on a la chance d'avoir autour de nous ces gens-là. Ils servent d'aiguillon. Il ne faut pas oublier aussi que dans le comité de mission, il y a des collaborateurs, donc des managers et des consultants moins seniors. Et leur regard est extrêmement important aussi. Comme je disais tout à l'heure, ils contribuent à faire en sorte que la mission tienne dans la durée. Le fait qu'il soit membre du comité de mission, mais le fait qu'il soit même quelque part structurant dans la démarche d'entreprise à mission, parce que faut être honnête, en tant que en charge du développement de la structure, tous les deux, on n'a pas le temps d'être sur le formalisme exigé par cet organe comité de mission, le reporting, machin truc. Heureusement qu'il y a une équipe qui s'en est saisie, parce que si on a adhéré à la qualité d'entreprise à mission, c'était aussi pour le formalisme qui va avec. C'est-à-dire, c'est pas déclaratif, il y a un format, il y a des rendez-vous. Les comités de mission, c'est des rendez-vous. L'audit de l'organisme tiers indépendant, c'est un rendez-vous. Tous ces choix qu'on a fait de dire on veut un statut structurant, derrière, il faut être capable de le tenir. Et c'est vrai que nous, on n'est pas forcément bons élèves, Fabien et moi, pour tenir ces engagements formels, mais on a une équipe qui nous y a permis de le faire, quoi. Donc c'est quand même important et il faut l'avoir en tête quand on se lance dans cette entreprise, dans cette transformation. Il va falloir consacrer du temps à ces sujets-là.
Passons justement à la partie client, parce que la partie client, c'est un peu le nerf de la guerre pour toute entreprise de service, mais je pense que ça l'est encore peut-être davantage pour vous. Tu le disais, hein, Fabien, vous êtes encore aujourd'hui la seule entreprise dans le grand secteur de l'intelligence économique à avoir franchi le pas de la société à mission. Et lorsqu'on s'était vu la première fois, vous aviez tous les deux souligné que vraiment chez Consort Intelligence, l'objectif c'était d'emmener vos clients sur des problématiques qui vous paraissent essentielles, mais qui pour eux sont un peu cachées. C'est leurs angles morts, des sujets que les clients ne voient pas. Avec un peu de recul aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez la prise de conscience chez vos clients du travail que vous essayez de faire avec eux?
Moi, j'ai envie de commencer par une vision très positive que j'ai et qu'on peut vivre en étant désormais entreprise à mission, c'est que le rapport avec nos clients, les discussions qu'on a avec nos clients, des clients ou des prospects, hein, j'en ai encore eu un ce matin qui devait durer une heure, qui a duré une heure et demie. En fait, on est en train de toucher et de parler de sujets qui parlent à l'être humain et à ce que lui observe aussi, parce que lui aussi a des enfants, lui aussi il a conscience qu'il faut bouger les lignes. Et en fait, on est dans une... Ça apporte une espèce d'humanité. On n'est pas en train de faire du business brutal en disant « je vous vends un produit pour que vous puissiez faire votre propre business ». On parle déjà des valeurs. Et ça, en fait, ça crée un espèce de canal de discussion qui est hyper sympa quand on discute avec des prospects ou des clients. Et j'ajoute à ça, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand, c'est que cette prise de conscience de l'être humain, elle se voit aujourd'hui dans la réglementation. L'Union européenne, la Commission européenne a pris des directives et il y a des transpositions en droit interne sur le devoir de vigilance et sur le reporting extra-financier. Et en fait, aujourd'hui, cette prise de conscience, elle se traduit par des obligations. Et c'est le sens d'un petit article que j'ai publié pour Consort dans une revue juridique. Hein. C'est le travail de nos clients qui sont généralement dans une grande partie des contrôleurs internes, des directions juridiques, des compliance officers ou des directions générales, elles avaient ce truc-là en tête, ces obligations-là, par rapport à leur image, leur risque d'image en fait. Parce qu'elles savent qu'elles sont scrutées par tout le monde. Mais aujourd'hui, elles n'ont plus le choix. C'est-à-dire qu'on les contraint à agir sous peine de sanctions en fait. Donc nous, on arrive à amener ça, je pense, avec une certaine douceur. Et on parle à nos clients de leurs problèmes à eux, c'est-à-dire le compliance officer, il a un problème. Il doit travailler sur ce risque-là, mais il a un reporting à faire à ses actionnaires, à son management, et il doit rendre des comptes à son business advisor. Et en fait, on arrive à accompagner ces gens-là dans leurs problématiques personnelles, dans le cadre de leur fonction, pour accompagner l'entreprise pour atteindre ses objectifs macro. Et le fait d'être entreprise aux missions, aujourd'hui, on se cache plus derrière son petit doigt. Nous, ce qui nous importe, c'est l'éthique des affaires, c'est l'impact. Donc, on discute de ces sujets-là. Et on voit tout de suite si nos clients sont illuminés par ça ou pas. Si ça leur parle pas et qu'on est juste là pour cocher des cases, il y a peu de chances pour qu'on deal ensemble. Par contre, s'il y a moyen de les amener, de les accompagner dans leurs problématiques, parce que ça les stresse aussi beaucoup, et qu'on peut avoir cette action de transformation à leur côté, c'est chouette. L'idée, c'est pas de travailler pour eux, c'est de travailler avec eux. Et en tant qu'entreprise à mission, je trouve ça plus facile.
Ça, c'est la version. Donc ça, c'était la partie optimiste.
Ouais. Alors la partie pessimiste, honnêtement, j'en ai peu finalement, parce que moi je me retrouve là-dedans, et en fait les gens qui nous correspondent pas, je suis très content de pas bosser avec eux. Non, ça nous a porté préjudice récemment dans le cadre d'un appel d'offres où l'un des arguments, alors qu'on était franchement les meilleurs pour gagner ce truc, enfin un grand groupe dont je citerai pas le nom, mais l'un des arguments n'a pas prêché pour notre paroisse, c'est le fait d'être entreprise à mission. C'est-à-dire que les métiers de ce groupe-là se sont dit oui, mais si on vous donne pas les enjeux, si on vous dit pas pourquoi on vous demande de faire ça, vous risquez de pas le faire. On risque d'avoir un problème de fluidité, de communication. C'est possible. Alors, c'est pas forcément vrai. On n'est pas toujours au courant des enjeux globaux quand on va travailler sur un gros M&A et qu'on fait des grosses due diligence sur des business advisors dans quatre coins du monde. On n'a pas forcément toute l'histoire. Il y a des angles morts pour nous aussi. Moi, je pense que c'est mon analyse qui n'engage que moi, un prétexte parce que leurs opérations sont loin d'être clean. Et qui se sont dit, on va pas faire rentrer une boîte engagé, alors que notre business, il n'est pas particulièrement propre. Alors, c'est mon analyse, mais en tout cas, c'est sans doute la première fois que ça a été un peu violent parce qu'on pensait vraiment gagner ce truc. Et ça nous aurait beaucoup aidé de gagner ce truc. Mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. Hein, donc voilà, c'est le côté un peu négatif. Pour le reste, je vois toujours le verre à moitié plein.
Et à contrario, pour un autre appel d'offres qu'on a pu remporter l'été dernier pour un grand groupe du secteur nucléaire, c'est justement l'argument qui a fait en partie qu'on l'a emporté, c'est qu'on est capable de dépasser le cahier des charges qui pourrait être au départ restreint sur des risques de conduite des affaires, d'éthique des affaires, d'anticorruption, anti-blanchiment. Et comme on apporte, nous, une dimension plus avant-gardiste de prise en compte des risques et des impacts environnementaux et humains, ils se sont dit, avec nous, on va aller un peu plus loin, on va avoir déjà de capacité à progresser sur ces sujets. Donc, si on a bien compris leur décision, on a gagné en partie et en grande partie parce qu'on avait fait ce choix-là de répondre à des questions qu'ils ne nous avaient pas posées. Donc, on met des questions sur la table, souvent que les clients ne nous posent pas. On a aussi parfois le courage de mettre sur la table des sujets que nos clients ne nous avaient pas demandé d'aller éclairer. C'est notre devoir aussi. Hein. Et quand certains clients nous disent « Ouais, mais avec vous, j'ai un peu l'impression de faire rentrer le loup dans la bergerie », moi, je pense que c'est plutôt le chien de garde dans la bergerie. C'est-à-dire que ils sont parfois un petit peu... ils pêchent par un petit peu de naïveté en disant que les informations déclaratives, les audits qu'ils peuvent conduire vont suffire à voir l'ensemble des risques auxquels ils pourraient être exposés. Comme on a une capacité à éclairer, comme tu le disais, les angles morts, c'est le terme que tu as employé, c'est vraiment celui qu'on porte. Éclairer pour les angles morts, c'est aussi éclairer les risques qu'ils ne voient pas et qui sont derrière des retours de boomerang en termes de réputation, en termes de valeur de l'entreprise, en termes de capacité à attirer des collaborateurs, des investisseurs, etc., etc. Donc, par rapport à cette logique de verre à moitié vide ou à moitié plein, ou d'approche pessimiste ou optimiste, je pense que dans tous les cas, on est en chemin, que quel que soit le fait on refuse des missions, oui, on refuse des clients, et oui, certains clients nous tournent le dos parce qu'ils nous considèrent comme peut-être trop engagés pour eux, je pense qu'ils reviendront. Et je pense que on paye aussi le fait d'être un petit peu en avant-garde. Aujourd'hui, un peu moins parce que les réglementations enfin arrivent pour nous, comme le lit sur lequel on va pouvoir enfin dérouler notre action. Il était temps, on a démarré il y a 3 ans, on était un peu trop tôt. Mais c'est pas grave, on s'est forgé nos outils, on s'est forgé nos convictions, on a su embarquer très tôt ceux qui étaient prêts et mûrs, et maintenant, je pense qu'on va pouvoir embarquer avec nous ceux qui vont tout simplement répondre aux obligations réglementaires, et on a de quoi le faire parce qu'on est outillé pour ça.
Est-ce que je veux juste ajouter que effectivement, on était à l'avant-garde, mais aujourd'hui, on est prêt à répondre aux problématiques des sociétés qui s'en saisissent enfin. ce soit les devoirs, les plans de vigilance, on est prêt, on est là, on a déjà des solutions, on peut intégrer leur process sur l'évaluation des tiers devoirs de vigilance. Les sociétés qui ne sont pas entreprises à mission et qui se dotent de raison d'être, il y en a plein. Il y en a plein, je ne citerai pas cette société, mais il y a une société familiale pour laquelle on travaille qui a un mantra très positif et derrière lequel toute la structure est alignée pour prendre en compte les externalités. Hein. Et nous, on est complètement raccord en termes de valeur. Donc, c'est au final un vrai facteur clé de succès pour nous d'avoir été avant-gardiste et de justement pas prendre le train en marche, de dire « Ah, vous positionnez sur le plan le devoir de vigilance et les droits humains. Ah bah oui, il y a un marché, on va y aller. » Non, nous, on y était avant que le marché existe parce qu'on a eu envie de se positionner là-dessus. Après, c'est du bon sens, ça allait se produire, c'est obligatoire. Mais on ne savait pas quand, on ne savait pas sous quel format. Aujourd'hui, on est time to market, j'ai envie de dire.
Sur ces aspects-là, effectivement, enfin, on va arriver à la partie réglementation parce que c'est vraiment très important. Mais juste avant, je crois que c'est toi, Bertrand, qui mentionnais au début cette idée d'arbitrage aussi potentiellement sur de nouveaux clients, de nouvelles missions, etc. Ça, c'est un sujet qui revient systématiquement pour toute entreprise de service, qui, peu importe le secteur d'activité, j'ai envie de dire. À un moment donné, se pose la question, est-ce qu'on va devoir renoncer à des clients? Est-ce qu'il y a des missions qu'on va arrêter de faire, etc., etc. Comment vous avez abordé ce sujet-là? Est-ce que c'est juste de manière ad hoc, il y a un comité d'arbitrage sur un comité qui décide de est-ce qu'on prend cette mission ou pas? Ou est-ce que vous êtes dit, en fait, ce type de mission-là, on ne le fait plus, c'est fini, on a la maturité aussi pour assumer de prendre ce type de décision?
En fait, il y a autant de cas de figure que de clients à admission, on va dire. Il y a des secteurs, très clairement, qu'on a choisi d'exclure. Mais ça, c'est depuis longtemps. Le secteur de la défense, par exemple, c'est un secteur qu'on a exclu de notre portefeuille volontairement. Après, sur les missions qu'on va accepter ou pas, il y a de toute façon pas beaucoup de discussions. C'est du bon sens et de l'éthique qui fait qu'on décide sur un quart de seconde en général. Il y a la nature de la mission et puis il y a la mentalité du décideur derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a lui envie de mettre dans et quelles sont ses intentions profondes. On parle d'intentionnalité. Il faut qu'on détecte l'intentionnalité. On détecte si derrière la mission qu'on nous assigne, l'interlocuteur est prêt à être ouvert à un dialogue et à un changement. Si on se rend compte que sur une mission qui démarre plutôt mal, sur des objectifs qui sont plutôt destructeurs, on n'arrivera pas à discuter avec ce client et à faire quelque peu évoluer sa position. Là, on va faire demi-tour assez rapidement parce qu'on n'a pas d'énergie à perdre et nos équipes, on ne veut pas les cramer avec des clients qui sont néfastes. Après, si on détecte, et c'est assez fin, comment détecter l'intentionnalité d'un client qui peut partir d'un mauvais pied mais qui pourrait s'engager sur une discussion ou sur un dialogue plus ouvert, c'est vraiment du cas par cas. Et puis, il y a les cas de figure où nous étant en première ligne en train d'aller chercher des missions et en fait de faire vivre la boîte, hein, très clairement, et de nourrir notre équipe, y compris financièrement, on avance un peu plus vite qu'ils ne voudraient des fois et ils s'auto-saisissent en disant là, on n'est pas sûr d'avoir envie de travailler là-dessus comme ça. Parfois, c'est un problème d'explication. Ils n'ont pas forcément compris qu'on était en train d'enclencher un changement. Ils voient les choses à l'état initial. Nous, on le voit déjà à l'état final, c'est-à-dire on sait où on veut amener notre client. Ils ne le voient pas forcément, donc il faut qu'on leur explique. Et globalement, il n'y a eu aucun désaccord. Il y a eu un alignement à chaque fois sur on y va ou on n'y va pas. Soit d'emblée avec Fabien parce qu'on est complètement en raccord. Et comme on le disait, la mission, c'est la boussole des fils à plomb. Donc, ça nous sert à savoir où on va. Et ensuite, quand il y a une hésitation, on met la discussion autour de la table et on ouvre un dialogue et c'est encore plus enrichissant. Donc, je pense que ça s'est fait naturellement. On ne l'a pas décidé. Les choses se sont faites comme ça. Et finalement, l'ADN profond qui nous guide a servi à faire le tri, quoi.
Si on regarde un petit peu là maintenant, vous disiez ça fait 3 ans que vous avez commencé ce chemin-là. Quelles pourraient être les principales conséquences que vous voyez d'être passé société à mission? Moi, j'en vois une avec mon regard extérieur, c'est sur les aspects de communication, de vous assumer beaucoup plus votre positionnement que ce que vous ne pouviez faire par le passé. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous intimez plus spécifiquement à l'entreprise à mission?
Non, je reviens sur ce que je disais dès le début, c'est cet alignement. Je pense qu'on est dans un monde où on est tous en quête de sens et l'entreprise à mission, le choix qu'on a fait, nous donne ce sens. Donc c'est ça le premier le premier apport de ce statut-là, c'est statutaire, on le dit à tout le monde, donc il faut assumer maintenant. Donc ça, c'est bien. Sur la com, oui, c'est sûr, c'est intéressant. Et ça nous, en fait, on communique pas parce qu'on a envie de se vanter d'être des gens éthiques. C'est pas du tout ça. C'est plutôt que, après des années dans l'ombre, on n'a jamais communiqué, on se sent, en fait, enfin à l'aise pour défendre nos idéaux. Et sans être des militants, hein, c'est-à-dire des idéaux de transformation, proposons des solutions concrètes pour faire avancer les choses. Donc, c'est en ce sens-là qu'on communique. Après, bien évidemment, on est une société commerciale, hein, donc la communication, c'est fondamental. On souffre encore d'un déficit de notoriété. On n'est pas aussi connu que d'autres boîtes le sont et on devrait être plus connu. Mais la communication, c'est un coût. C'est pas évident de communiquer. Bertrand et moi, on n'est pas des pros de la com et on n'a pas forcément envie de s'exposer tout le temps. Mais justement, le fait d'être entreprise à mission et d'être désormais aligné entre ce qu'on est nous en tant qu'être humain et ce qu'on fait au quotidien, ça nous permet de finalement dépasser nos stress de communication, de prendre la parole, je sais pas, de faire un podcast avec Vivien ou de passer sur France 24. Aujourd'hui, on le fait. On le fait pas parce que on doit le faire pour rentrer du business. On le fait parce qu'on pense qu'on a un truc à dire, on a une parole à porter. Et bien évidemment, ça doit se transformer en business parce que l'un des conséquences, et je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est les arbitrages qu'on fait. Refuser une mission pour une entreprise comme la nôtre, de cette taille-là, c'est dur. En fait, c'est financièrement difficile parce que ça va avoir un impact sur les démarches qu'on va devoir faire pour aller compenser la perte de ce contrat potentiel. Mais au final, heureusement qu'on refuse parce qu'on serait très malheureux si on faisait la mission. et les missions qui nous ennuient, les missions qui sont pas justement corrélées avec notre alignement et l'essence de la mission, on les fait mal en fait. C'est un métier de passion. Nos collaborateurs sont passionnés et si on veut bien répondre, il faut qu'on maintienne cette flamme, cette lumière. Mais c'est vrai qu'il y a des arbitrages à faire et ils sont difficiles. Mais comme tu le disais, tu parlais de la vision finale. Faut pas voir les difficultés qu'on rencontre maintenant à l'instant T. On sait très bien que à la fin, ça marche. À la fin, ça va marcher. Et là, on le voit ces derniers jours et depuis la rentrée, on a énormément de nouveaux contacts avec des clients. On transforme aussi très très vite des missions avec des clients qui ne connaissaient pas, parce qu'on peut constater tous les jours. Quand on parle avec des gens du contrôle interne, de la direction juridique et tous ces gens-là, qu'on est complètement raccord avec leurs problématiques. C'est incroyable. Et les achats aussi. On parle avec les achats, ce qui était l'entreprise à mission nous a amené aussi à parler avec des nouvelles personnalités, des nouvelles fonctions dans l'entreprise, et notamment les achats, puisque la problématique achat, elle est fondamentale sur les externalités quand on va travailler sur des fournisseurs. Là, en ce moment, en Asie, on travaille sur une enquête sur une dizaine d'usines en Asie du Sud-Est et aussi sur des usines en Chine pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et en fait, ce faisant, on s'éclate, en fait. Et le but, ça reste quand même de prendre du plaisir. On passe son temps à travailler, si c'est pour, entre guillemets, s'emmerder toute la journée, ça n'a pas de sens. Donc, la mission, ça nous aide à nous éclater aussi.
Si on arrive maintenant un petit peu aux réglementations, parce que c'est vrai que sur les réglementations, quand on s'est vu il y a 2 ans, la CSRD était, on savait que ça allait arriver, le droit de vigilance globalement aussi, mais au niveau européen quand même beaucoup moins. Aujourd'hui, en fait, là, c'est toute votre mission et votre positionnement semble être très raccord avec les nouvelles exigences qui pèsent sur les plus grosses entreprises qui sont vos principaux clients. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça?
Alors déjà, je vais dire que c'est le fruit d'un gros travail de lobbying de Conseil d'intelligence auprès de la Commission européenne pour éditer ces normes. Donc on a beaucoup bossé hein, pour qu'ils puissent éditer ces normes et après en France pour la transposition. Non, plus
alors, ceci était une blague. Hein,
bien sûr, c'est une blague. mais bien évidemment, c'est une blague. Plus sérieusement, c'est... la CSRD, c'est un sujet. C'est les rapports de performance extra-financière.
Ouais.
On est en train de parler de reporting, c'est-à-dire que la CSRD, elle a pour objectif de faire peser le rapport extra-financier aussi lourd que le rapport financier pour mesurer la performance de l'entreprise. C'est pas là-dessus que nous, on se positionne. Effectivement, il y a des grands cabinets d'audit qui accompagnent les clients pour monter les politiques, gérer les process de reporting sur des thématiques qui sont très, très précises hein, dans le cadre de la CSRD. Nous, on apporte des solutions opérationnelles et de mesures effectives des problématiques. En fait, ce que réclame la réglementation européenne, et j'ai pas trop envie de parler de la CSRD, mais plutôt parler du devoir de vigilance.
Donc là,
devoir de vigilance français, transposé avec la CS3D européenne. le devoir de vigilance, il va toucher les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Donc, on n'est plus en train de parler des grands groupes, on est en train de parler d'un immense aéropage de sociétés. Et en fait, ce devoir de vigilance qui concerne les problématiques environnementales et humaines réclame la mise en place de politiques, mais de mesures effectives. Et nous, on se positionne sur les mesures effectives. Il est effectif de nous faire travailler sur de l'évaluation des tiers devoirs de vigilance dans le cadre de la conformité au plan de vigilance que la société a construit ou est en train de construire. Pour la plupart, elles sont toutes en train de le faire. C'est pas facile pour les entreprises de changer comme ça. C'est pas facile d'avoir toutes les bonnes solutions à mettre au bon moment dans le process. Donc nous, ce qui est bien, c'est que vu que ça fait déjà 3 ans qu'on est sur ces sujets-là, on est mûr pour dire à nos clients où est-ce que nous, on a de la valeur ajoutée. On n'a pas de la valeur ajoutée sur la totalité du spectre, mais on a de la valeur ajoutée à certains segments où nous, on peut apporter de la connaissance utile à la gestion des risques, à la mesure des risques et à la qualification des risques. Et ça va servir à nourrir le rapport de performance extra-financière, en fait. Donc, cette nouvelle norme, en fait, elle est fabuleuse, en fait, pour nous. C'est un peu comme Sapin 2 pour les cabinets d'intelligence économique. On a tous surfé depuis 2017 sur la vague Sapin 2. Nous, chez Consort, on n'avait pas attendu Sapin 2 pour travailler sur les problématiques de corruption, qui reste quand même un délit pénal dès le départ. Par contre, ce qui a été nouveau, c'est l'obligation d'avoir une procédure interne et des mesures coercitives avec une agence qui va aller vérifier tout ça, l'Agence française anticorruption. J'ajoute quand même un dernier élément, parce que je peux en parler très longtemps de ce sujet. On a assisté là à un événement assez majeur, même si c'est un jugement de première instance, c'est la condamnation de La Poste pour défaut de devoir de vigilance. Et schématiquement, qu'est-ce que disent les magistrats? C'est le défaut de mesure effective. C'est pas le fait que le plan existe ou n'existe pas. Tout ça reste des obligations de moyens, hein. C'est pas des obligations de résultats. Mais il faut attester de sa bonne foi par la mise en place de mesures effectives. Et pour répondre clairement à ta question, on se positionne sur la mise en œuvre de mesures effectives pour mesurer les risques dans le cadre du devoir de vigilance. Bien sûr, on continue à bosser sur Sapin 2, sur l'AML, enfin la lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme et toutes les obligations des entreprises qui sont assujetties à la déclaration de soupçon dans le cadre du code monétaire et financier. Mais là, nous, ça nous offre un champ des possibles qui est fabuleux. Voilà.
Un rebond par rapport à ça, il faut aussi se dire que on va pas tomber non plus dans le piège de ne faire que des missions qui rentreraient dans ce cadre strict des obligations réglementaires, parce qu'il y a des sujets qui débordent ces obligations-là et qu'on est aussi capable d'adresser. Donc on reste très ouvert sur des sujets plus atypiques et qui sont en accompagnement d'enjeux de saisie d'opportunités. Plutôt, dans ces cas-là, les directions avec lesquelles on parle ne sont pas forcément des directions juridiques ou de la conformité, mais des gens qui ont des business dans les mains, des patrons de business unit, des responsables de l'export, sur des pays qui sont dans les opérations, qui travaillent plus ou moins bien d'ailleurs avec les directions de conformité et juridique. Notre travail, c'est aussi de rassembler ces forces pour les faire converger et pas être en train de se taper les uns sur les autres. Et il y a aussi un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme le disait justement Fabien, on est dans la mesure d'effectivité, c'est-à-dire comment on peut vraiment mesurer la réalité sur le terrain. Et on le fait aussi parce que on est né il y a 12, 13 ans, à une période où l'information était plutôt rare et difficile d'accès. Ce qui a évolué, en plus de ces prises en compte de sujets environnementaux et humains et de ces réglementations, c'est le contexte informationnel dans lequel on est. On est dans un univers de la surabondance informationnelle, de l'intoxication, de la difficulté à discerner le vrai du faux. Donc on a une contribution majeure dans le fait d'être capable de discerner le vrai du faux. Le discernement qu'on a inscrit dans notre mission, statutairement, la capacité à offrir du discernement dans la prise de décision de nos clients, et du coup une conscience éclairée des impacts et des risques environnementaux et humains, passe aussi par la capacité à aller chercher l'information sur le terrain, de terrain, mesurer la réalité, et d'aller au-delà de ce qu'on voit trop souvent, des informations qui sont déclaratives, on s'appuie sur ce que les tiers disent, et on le prend pour argent comptant, on mène des audits, et ça c'est toujours vrai, on le disait déjà il y a 2 ans, hein. On s'appuie sur des audits, et on sait qu'on va pas voir grand-chose, mais ça nous suffit. J'en ai encore eu l'exemple hier avec un client fonds d'investissement qui nous dit « Nous, on se satisfait bien du déclaratif et des audits, ça nous permet de pas trop voir en profondeur et ça nous empêche pas, comme ça, de saisir des opportunités et ça nous permet de continuer à avancer. » Mais ils sont assez suicidaires en faisant ça parce qu'ils prennent des risques démesurés qu'ils ne mesureront que dans 6 mois, 1 an, 2 ans quand ils se feront retoquer, voire condamner. Donc, en parallèle de cette prise en compte des contraintes nouvelles réglementaires et qui sont un plus pour nous, il y a aussi cette obligation de prendre en compte le nouveau contexte informationnel qui est surabondant et qu'il faut être capable de prendre du recul par rapport à l'information et être capable d'aller au plus près du terrain pour mesurer la réalité sur le terrain.
Alors on arrive tout doucement vers la fin de cette de cet échange. Je vous propose qu'on fasse une petite prise de recul sur la société à mission, notamment parce que vous avez réalisé votre premier audit, qui je crois s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous en retenez?
Moi, je vais juste, je reprends ce que disait Bertrand tout à l'heure sur le fait qu'on peut pas être partout et que ce sont vraiment nos collabs qui se sont saisis de gérer toute la machine avec le comité de mission et l'organisme tiers indépendant pour que cet audit se passe au mieux. On a eu la chance d'avoir une super auditrice. Je relève juste deux sujets. Un, la difficulté pour un auditeur de comprendre l'entièreté de l'activité. Complexe, c'est pas évident d'expliquer exactement ce qu'on fait et d'y voir et d'y discerner les plus et les moins, les équations, les inadéquations avec la mission. Ça, c'est pas facile. C'est encore moins facile du fait que c'est très court et que la présence, il y a beaucoup de revues documentaires et l'auditeur, enfin l'auditrice, est pas là très longtemps. Donc elle conduit beaucoup d'interviews. Hein, c'est quand même chouette. Mais c'est pas facile. Je pense que les auditeurs, comme les entreprises à mission, sont encore en train de tâtonner. On est tous en train d'apprendre, en fait. Hein. Je pense qu'on va jamais cesser de le faire, mais pour eux, c'est tout nouveau. Et ils sont confrontés à des entreprises qui agissent dans des secteurs hyper différents et qui proposent des solutions très différentes. C'est pas facile pour eux. Je pense qu'en tout cas, notre auditrice, elle a fait le maximum en lien avec une équipe chez nous hyper mobilisée. Parce que c'est beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de reporting, il y a des métriques à sortir, il y a beaucoup de travail à faire, hein, pour que l'audit se passe au mieux et qu'il soit transparent. Le jeu, c'est la transparence, hein. L'entreprise à mission, c'est ça aussi, c'est la transparence.
Bah, c'était un rendez-vous important, c'est vrai. Je salue vraiment aussi le travail d'OPAM, hein, qui a effectué l'audit en tant qu'organisme de tiers indépendant cet été. Ça a duré quand même une bonne partie de l'été. Si tu te souviens, Vivien, il y a 2 ans, quand on s'est parlé, j'avais mis en avant le fait que, bah, c'est bien de t'éclairer les choses, mais c'est mieux de les mesurer. Et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette qualité d'entreprise à mission, c'est parce qu'on veut s'assigner à pouvoir mesurer les choses au-delà du déclaratif. Et c'est le travail qu'a fait finalement l'auditeur. Hein. Il est venu mesurer la réalité, l'effectivité de ce qu'on avait pu faire. En allant regarder dans nos chiffres, en allant regarder dans nos éléments de mission, en allant regarder tous les entretiens qu'il a pu mener avec nos collaborateurs, mais également avec des partenaires et des clients. On a ouvert notre portefeuille client pour qu'il puisse aller leur parler en toute sincérité. Ça nous a aussi permis d'affiner le tir parce qu'en fait, quand on a rédigé notre mission il y a 3 ans maintenant, même plus, on l'a fait un petit peu la fleur au fusil et en se disant on y va. Et maintenant qu'on a un peu plus de recul, on se rend compte que il faut être capable de rédiger une mission qui puisse être mesurable, avec des objectifs qui puissent être mesurables. Le plus grand apprentissage de l'audit, c'est ça. C'est bien d'avoir des intentions, il faut être capable de les mesurer, que ça rentre quelque part dans des tableaux avec des indicateurs. Et donc le gros travail qu'on a fait et qu'on a affiné tout au long de cet audit, c'est de construire un tableau de bord de mesures effectives de la mission, de la manière dont on la réalise ou pas. Donc le grand apport pour moi de l'audit, ça a été non seulement d'avoir la validation que par un tiers que la mission est bien réalisée, mais aussi d'outiller notre mission et d'avoir franchi une étape pour aller encore plus loin. Et ça nous amène aussi à re-rédiger notre mission statutaire. On est en train de la re-rédiger, pas pour la travestir et la changer, mais juste pour la rendre plus opérationnelle, moins abstraite, plus pragmatique. Nous sommes pragmatiques dans notre activité. Il faut que la mission qu'on s'est assignée le soit aussi, avec des objectifs clairs qui sont rédigés dans la mission. La raison d'être ne va pas être changée. Par contre, les objectifs qu'on s'est assignés et qui vont donner corps à cette raison d'être vont être rédigés, c'est un travail qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut se dire aussi, et je pense que c'est un enseignement pour ceux qui veulent basculer dans l'entreprise à mission ou qui le sont déjà, c'est qu'on a décidé de décorréler le temps du business de celui de la mission. Le temps du business, c'est tous les jours. On est sur le feu, on y va en permanence. Le temps de la mission, on se donne le temps. On va laisser les choses décanter. C'est des cycles beaucoup plus longs, sur 6 mois, sur 1 an. On a 3 ans pour le prochain audit. Eh ben, on va pas se retourner la tête à mettre en péril l'entreprise pour s'assigner des objectifs qu'on n'arrivera pas à tenir. On fait les choses avec un rythme spécifique. Il y a le temps de la mission et le temps des affaires, donc on a appris ça aussi. Et c'est quand même quelque chose qu'il a fallu décider à un moment donné, parce que l'équipe, elle pousse, l'équipe, elle veut qu'on fasse bouger les choses, la mission, les objectifs, maintenant, tout de suite. Ouais, mais il y a aussi une entreprise à faire tourner, quoi. Donc, faut trouver le bon juste milieu. On n'abandonne en aucun cas le travail et l'engagement sur l'entreprise à mission, mais avec l'énergie et le temps nécessaire.
Donc je retiens, parce que c'était une de mes questions, mais tu l'as devancé sur ce que vous auriez fait peut-être différemment, c'est avoir à l'esprit qu'à un moment donné, ça va être mesuré, et aussi le pragmatisme qu'il faut avoir aussi bien dans la rédaction de la raison d'être ou des objectifs, et aussi le pragmatisme dans les ambitions que vous fixez, parce qu'il faut trouver un juste milieu entre le business et la mission, même si c'est vrai que l'idéal, mais qui n'est pas toujours facile à trouver, c'est de combiner complètement
c'est l'objectif, les deux. C'est quand même l'objectif qu'on poursuit au quotidien, c'est de combiner les deux. Et c'est marrant ce que tu disais, parce qu'on a écrit ça à la fleur au fusil. En fait, on a juste écrit nos valeurs et on ne s'est jamais dit qu'un jour, quelqu'un allait les mesurer. Et donc, en fait, une valeur, ce n'est pas mesurable par définition. Donc, on a écrit ça plus avec une logique philosophique qu'une logique d'auditeur, en fait. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on va réécrire sans du tout travestir, mais rendre ces objectifs plus opérationnels, en fait. Quelle réalité ils recouvrent pour de vrai ? Ce qui est l'apport, effectivement, c'est intéressant.
Alors, comme vous le savez, vous avez fait l'exercice une première fois, je finis tous les épisodes par un coup de cœur musical. Alors, la dernière fois, seul toi, Fabien, avait donné un coup de cœur musical. Bertrand, t'avais dit non, moi, j'écoute des choses trop, trop bizarres.
C'est vrai que ça peut faire peur. Ça n'a pas changé, mais je vais me plier l'exercice quand même.
Néanmoins, là, cette fois-ci, on va faire l'exercice pour vous deux. Donc, lequel de vous deux souhaiterait commencer avec son coup de cœur de musical du moment ou pas forcément du moment, d'ailleurs?
Bah, je vais le faire parce que j'ai botté en touche la dernière fois. Et en faisant quelque chose de simple, je me suis dit, mais je vais tout simplement partager le morceau que j'écoutais en venant, qui est la réalité, c'est-à-dire je l'ai dans mes oreilles en arrivant. C'est pas un morceau très récent, c'est un morceau qui date de 1988, on est à la veille de la chute du mur, pour restituer les choses. C'est un morceau d'un groupe plutôt dark wave qui s'appelle Dead Can Dance, Les morts peuvent danser, ok? Et le morceau s'appelle Host of Seraphim. C'est un morceau qui est assez atmosphérique et qui, enfin, je trouve que ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est qu'ils ont réussi une synthèse profonde et parfaite entre des univers musicaux et les archétypes de musique qu'on pourrait rencontrer aussi bien en Asie, au Moyen-Orient, des chants grégoriens, connotations africaines, sud-américaines. On ne sait plus trop où on est. Et au final, c'est une sorte de tour de Babel musical qui fait que, bah, peu importe d'où on parle, peu importe les références culturelles, on est au carrefour de tout ça, des êtres humains qui avaient envie de vibrer, quoi. Donc c'est ce morceau-là, Host of Seraphim de Dead Can Dance, que j'avais envie de partager.
Bah, c'est parfait, je pense que pour beaucoup, on va le découvrir, donc on va l'écouter. Bah merci beaucoup pour cette belle découverte. Et toi, Fabien, est-ce que ce sera aussi obscur ?
Ah, oh, c'était pas obscur.
Dead Can Dance.
Ah, que Bertrand, oui. Je crois qu'il
parlait
la première fois. Non, mais alors non, pas du tout. Moi, c'est hyper ensoleillé. Mais ça rejoint un peu là ce que décrivait Bertrand sur une sorte de melting pot, parce que moi j'ai choisi Walking Alone d'un groupe qui s'appelle Del Grey. Je sais pas si tu connais ce groupe. Ouais. C'est un groupe de blues créole. Et en fait, il chante en créole avec un son absolument incroyable. Et moi, je l'écoute beaucoup en ce moment. On est en automne et quand on écoute ça en marchant, il fait tout de suite beaucoup plus beau. Donc moi, j'ai découvert ça récemment et je l'écoute en boucle en ce moment.
Alors, on n'est pas à l'automne, hein. Tu sais que c'est l'hiver.
Ouais,
hein.
C'est l'hiver. Enfin, non, mais c'est parce que... Non, ok. C'est l'hiver, mais j'ai l'impression que c'est... On n'a pas senti l'hiver, mais que l'automne durer jusqu'au printemps.
Maintenant, de toute façon, l'automne est très long maintenant.
Voilà. On a eu une fois un petit moment d'hiver.
Ouais, on a eu
quelques jours.
On
vit un grand automne.
On vit un grand automne, tout à fait. Ben, c'est parfait, on va l'écouter.
Descendant dans la villa, on monte pas qu'à calculer moins. Mon café, 10 affaires moins. Tout seul. Allons moins qu'à penser à est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça? Est-ce vous aussi ou qu'à sentir toutes ces rêves? Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne.
Bah, merci à vous deux pour ces choix musicaux originaux. Très, très clairement, je pense les plus originaux que j'ai eu jusqu'à présent. Et merci également pour vos et merci pour vos retours d'expérience aussi sur l'entreprise à mission, votre sincérité et l'honnêteté de vos propos. Je pense que ça enrichit aussi un petit peu tout ce qu'on peut entendre ou parfois ne pas entendre sur la société à mission. Donc merci à vous et puis bon courage pour la suite et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci
bon courage à toi. Merci pour ce travail.
Merci pour ce moment de prise de recul vraiment précieux pour nous aussi.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous repartez plein d'entrain, d'envie et de bonnes idées. Mais pas si vite. Et si d'autres pouvaient avoir la même pêche que vous après cet épisode ? Pour ça, rien de plus simple, c'est vous qui avez les moyens entre vos mains. Soit en notant le podcast, surtout sur Apple Podcasts ou sur Spotify, depuis votre smartphone, soit en partageant cet épisode à votre entourage ou en faisant un post sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen d'améliorer le référencement du podcast et de le faire connaître à d'autres. Et si vous avez des entreprises à mission à interroger, peut-être même la vôtre, contactez-moi directement sur LinkedIn ou par email. Et si vous souhaitez me faire part de vos questions, comme je le disais en introduction de cet épisode, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'échanger avec vous pour un futur épisode. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous plonger dans les précédents échanges, il y en a quand même un petit paquet maintenant, et à bientôt pour un nouvel épisode.